Luc Champarnaud m'a demandé d'intervenir. Je lui ai demandé s'il y avait d'autres conservateurs de musées qui venaient. Il m'a dit non. Donc je me suis senti obligé de lui dire oui. et je pensais que c'était bon qu'il y ait un conservateur de musée. Puis j'avoue que j'avais une autre arrière-pensée que je lui ai avouée. C'est que je voulais défendre, les questions écologiques. Alors je ferai sans doute très mal, mais en tout cas c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans le domaine des mouvements d'œuvres, je pense que c'est quelque chose qui se développe, et on en a eu la preuve aujourd'hui, hein, par les interventions des uns et des autres. On voit que les régisseurs prennent de plus en plus en compte ces questions écologiques, ce qui me fait grand plaisir. Alors Luc m'a demandé de partager mon expérience. Alors elle est très très variée, puis je veux pas vous embêter parce que j'ai pas compté, mais je sais que j'ai fait plus de 40 expositions temporaires, voire plus de 50, donc ça fait beaucoup. Mais je voulais juste évoquer différentes catégories parce que elles peuvent évoluer. Il y a, je dirais, la politique culturelle de chaque musée, il y a la géopolitique et la politique pure qui interviennent en matière d'organisation des expositions temporaires, et puis il y a les questions économiques et écologiques. Alors, je parle que d'expositions temporaires, mais je suis bien conscient que l'une des données évoquées importantes, c'est tout simplement les dépôts d'œuvres aussi, qui sont sur un plan écologique plus intéressantes que les mouvements d'œuvres dans le cadre d'expositions temporaires. Je dois vous dire que il y a en matière de politique et de géopolitique des variantes qui évoluent en fonction de l'histoire même. Hein. Autrement dit, j'ai quitté le Louvre. J'ai quitté le Louvre en 91 parce que je voulais mettre en œuvre à Dijon une politique d'exposition temporaire qui visait à prendre en compte la chute du mur de Berlin, autrement dit une éventuelle reconstruction culturelle de l'Europe. Et donc j'ai voulu mener à Dijon une politique, c'est ce que Luc Champarnaud a connu et l'a poussé sans doute à me solliciter, j'ai voulu mettre en valeur la notion d'échange entre la France et ces pays-là et la naissance dans ces pays-là d'identité nationale sur un plan culturel. Donc j'ai fait Budapest, Prague, la première exposition c'était une exposition avec la Russie, je vous à peine en parler aujourd'hui, mais donc avec l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, et là l'assurance des œuvres était très chère, mais surtout le transport était très cher, d'autant plus qu'il fallait avoir une escorte militaire en Russie. Les expositions Budapest et Prague, c'était des centaines d'œuvres, extrêmement pluridisciplinaires, mais sur un plan culturel, c'était fascinant, puisque certains d'entre vous s'intéressent à l'architecture. Je dirais que, par exemple, j'avais emprunté à Prague la maquette du bâtiment tchèque de l'exposition universelle de 1937, et qui était l'antinomie même de ce que les Allemands et les Russes avaient fait au Trocadéro. Hein. Autrement dit, les Russes et les Allemands avaient fait une architecture, on va dire, néoclassique extrêmement massive, et les Tchèques, une architecture de verre en pilotis sur la Seine. C'était vraiment le petit pays face au grand pays qui adopte l'architecture la plus moderne et la plus contemporaine qui soit. Donc, ce type d'exposition, où je mêlais aussi littérature, beaux-arts, arts décoratifs, etc., apportait beaucoup et avait un grand succès. Donc, aujourd'hui, suite à ce positionnement vis-à-vis de l'Europe centrale, on m'a demandé de monter des expositions qui visaient à mettre en valeur certains grands musées de ces pays-là, comme le Musée des Beaux-Arts à Budapest, où on m'a demandé de faire une exposition qui a permis de mettre le Musée des Beaux-Arts dans la cour des grands musées européens. C'était en 2003-2004, c'était le ministre de la Culture hongrois de l'époque. et j'ai fait une exposition Monet et ses amis. Et puis après, il y a eu, pour célébrer l'entrée des pays comme la Hongrie ou la Pologne dans la communauté européenne, une exposition offerte à ces pays-là par le gouvernement français qu'on a intitulé « Ombre et lumière, 4 siècles de peinture française ». Donc en fait, j'ai été l'artisan de beaucoup d'expositions temporaires qui signifiaient des coûts très importants en matière de mise en œuvre, qui signifiaient des transports d'œuvres la plupart du temps soit en camion, soit en avion, je crois, apportaient beaucoup en matière de relations entre ces pays et la France. Et aujourd'hui, et j'ai fait d'autres types d'expositions temporaires, hein, à Dijon par exemple, j'ai fait une très grosse exposition qui était en 2000, qui s'intitulait « L'art des collections ». Et à ce moment-là, on a sorti énormément de collections qui étaient en réserve, de façon à montrer au public qu'il fallait rénover le musée. Alors c'était un type d'exposition complètement différent, avec nos collections, et donc ça n'avait aucun coût en matière d'assurance, aucun coût en matière de transport, impact écologique presque nul. Donc il y a différents types d'expositions qu'on peut mettre en œuvre, et lorsque j'étais aux Invalides, j'ai été confronté à un problème analogue, hein, c'est-à-dire autour de la maquette du Mont-Saint-Michel. Alors je ne sais pas si il peut montrer ça, le monsieur, enfin bon, il n'est plus là. Donc j'avais prévu de vous montrer la médiation numérique que nous avons fait autour du Mont-Saint-Michel, une médiation numérique financée par Microsoft. Qui permettait de découvrir l'histoire du Mont-Saint-Michel, l'histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire culturelle, au point artistique, hein, du Mont-Saint-Michel. Ça a marché du tonnerre de feu, puisqu'on a multiplié par deux la fréquentation du musée. Et ensuite, Microsoft, qui en général ne fait pas de mécénat culturel, hein, donc il avait fait une exception, c'était des centaines de milliers d'euros, hein, puisqu'il a numérisé le Mont-Saint-Michel lui-même et l'intérieur et l'extérieur pour cette opération. Et donc ensuite, Microsoft m'a demandé de prêter la maquette à Seattle, qui est le siège de Microsoft. Bon, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous répondez oui ou vous répondez non? La maquette est extrêmement fragile, hein, puisque c'est une maquette de papier. C'est une maquette qui a été faite au XVIIe siècle, qui a été offerte par les moines du Mont-Saint-Michel à Louis XIV. Vous acceptez le transport, vous prenez des risques terribles, et vous refusez le transport, bah c'est une gifle pour ceux qui vous ont permis de monter cette opération de numérisation. J'ai accepté. Bon, j'avoue que j'ai eu des sueurs froides, mais je trouvais que c'était une façon normale de remercier Microsoft. Alors, ensuite, j'ai fait une exposition sur les Alpes, une frontière, et donc uniquement avec les collections du Musée des Plans Reliefs. Et là, c'était aussi un peu lié à ce qui se passait en Ukraine, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que la définition d'une frontière à travers les relations franco-italiennes, puisque les Alpes définissent en partie les relations entre la France et l'Italie. Il y a eu tout récemment une réunion du président de la République et de Mme Meloni à Antibes, je crois. Hein. C'est dire que ces relations franco-italiennes sont pas toujours au beau fixe. Et si vous prenez un exemple que vous connaissez peut-être pas, qui est un exemple célèbre, hein, qui est le Mont Blanc, en général, ce qui définit la frontière entre deux pays, c'est valable aussi pour les Pyrénées, c'est la crête des montagnes. C'est pas vrai pour le Mont Blanc. Donc je sais que vous n'êtes pas forcément un grand alpiniste, mais plutôt un grand marin. Mais c'est des choses qui, malheureusement, peuvent être des sujets de tension entre pays. Alors, qu'est-ce qui définit une frontière? C'était mon interrogation. Là encore, exposition qui reste, qu'on peut toujours voir aux Invalides. Mais c'est quelque chose qui, comment dire, là, presque aucun impact positif sur un plan écologique. Alors voilà, je voudrais conclure en disant, je pense que et c'était très encourageant de voir ces jeunes régisseurs. Hein, j'ai dit à Luc, est-ce que vraiment vous voulez voir un dinosaure parler d'exposition temporaire? Je suis à la retraite, est-ce que ça vaut la peine? Et puis il a insisté très gentiment, alors j'ai dit oui, mais c'est vrai que ça fait un grand plaisir de voir ces jeunes régisseurs, régisseuses, sensibles aux questions écologiques. J'ai tendance à militer pour qu'on limite les expositions temporaires qui ne soient pas indispensables qu'on joue la carte au maximum de la mise en valeur des collections propres des musées, parce que l'impact écologique est moindre. Et puis qu'on joue aussi la carte des médiations numériques, parce que grâce aux médiations numériques, on peut faire des expositions temporaires, on va dire virtuelles, mais qui marchent extrêmement bien, notamment auprès de jeunes publics. Et ça, je l'ai constaté. Je veux dire, la médiation numérique qu'on a fait autour du Mont-Saint-Michel, j'ai voulu depuis de longues années faire des médiations numériques, y compris dans les châteaux-musées. Et puis l'État n'était pas vraiment convaincu. Et finalement, grâce au mécénat de Microsoft et grâce à l'expérience du Mont-Saint-Michel, eh bien, l'État a dit banco pour l'opération suivante. J'ai fait une médiation numérique autour de la maquette de Bayonne. Donc c'est quelque chose qui pourrait se développer. Il y a eu une médiation numérique au musée d'Orsay auprès d'un tableau de Courbet, hein, mais qui était plutôt une tentative, un embryon. Mais je pense que ça peut être, non pas une substitution, mais une solution pour faire vivre les œuvres, les faire comprendre à un public très large. Moi, j'ai plus d'une fois eu le souvenir, j'ai dit ça pour vous faire sourire, mais au musée des plans-reliefs, il y avait des sièges devant les médiations numériques. Eh bien, plus d'une fois, j'ai vu des enfants de 11-12 ans scotchés et la mère essayant de les tirer et eux résistant en disant « Non, maman, je vais encore voir la suite. » Bon. Ça, pour moi, c'était une sorte de récompense. C'était la preuve que ça marchait. J'ai envie de dire, voilà, si les jeunes, les très jeunes générations, pour tous les musées, c'est un enjeu. Voilà. Alors je sais que je ne pouvais pas parler de transport d'œuvres d'art par bateau à voile, parce que c'est peut-être un avenir incertain, mais en tout cas, j'aurais bien voulu faire plaisir à Luc Champarneau, mais bon, ça, je ne pouvais pas en parler, mais je pouvais dire... Je pouvais juste formuler ce vœu que les musées développent certains types d'expositions temporaires ou de médiations qui prennent plus en compte les questions écologiques, parce que entre la politique culturelle et l'avenir de notre planète, eh bien, il serait bon de ne pas avoir trop à choisir. Merci. Ça, c'est pas le...
Merci pour votre présentation. Donc, j'ai une question plutôt générale. J'espère que ce n'est pas la question qui fâche, juste à la fin. Mais ça me rappelle aussi une chose. Donc, vous avez parlé aussi du numérique, mais donc là, on a parlé aussi de tout ce qui est transport, tout ce qui est risque, le coût, bien sûr, parce que c'est normalement c'est des objets uniques, etc. Donc il y a des années, minimum 10-15 ans, on parlait aussi d'un côté de tout ce qui est des trois dimensions, donc avec tout ce qui est digital, et réaliser, on va dire, même avec des imprimantes 3D, des copies, là où c'est faisable. Est-ce que aujourd'hui les musées, d'une manière générale, est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'il y avait à l'époque aussi ce type de projet, ou c'est absolument hors sujet, parce que c'est uniquement la pièce unique qu'il faut prêter? Parce que je ne sais pas, je pourrais même imaginer pour certaines régions géopolitiques plus en crise, mais qui pourraient exposer au DDP, ou ils n'ont peut-être pas l'argent. Est-ce que c'est des projets, ou est-ce que c'est de toute manière c'est hors sujet, parce que de toute manière on ne prête plus des choses uniques.
Des jumeaux.
Oui, des jumeaux dans ce sens-là.
Ça
Ça, je pense que c'est assez culturel, mais en tout cas, en France, la conception du patrimoine, c'est l'objet, l'œuvre, celle-là. Donc, on peut faire appel au numérique, on multiplie les expositions numériques, mais de là à faire de la reproduction, on perd toute l'essence de l'objet. Donc, c'est parfois réalisé pour des photographies, qui est un médium qui, par essence, est reproductible. Mais même une photographie sur un tirage vintage et une reproduction, vous perdez tous les mains, vous perdez tout. Donc c'est très rarement effectué, en tout cas en France.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que cette demande, pour travailler beaucoup avec l'Asie et notamment avec la Chine, c'est aussi une demande qui est régulièrement faite de la part des organisateurs d'expositions en Chine, parce que le rapport au patrimoine n'est pas du tout le même, et notamment le rapport à l'œuvre originale. Et lorsqu'on organise des expositions photos, on prête des photos, il y a régulièrement la demande de réaliser des tirages modernes. Donc il faut argumenter sur les cas où c'est possible ou pas possible de le faire en fonction de l'histoire de l'œuvre. Et au Centre Pompidou, on a un cas un peu particulier en termes de reproductibilité, c'est qu'on a des œuvres en collection qui sont des œuvres à protocole. Et qui de fait sont produites à chaque fois qu'elles sont présentées. Et c'est vrai qu'il y a des institutions qui sont intéressées aussi pour des questions de coût et de transport, et notamment en Chine, d'avoir dans les listes d'exposition des œuvres qu'elles peuvent produire sur place pour limiter les coûts de transport. Après, ça fait des coûts de production sur place, donc c'est pas. Ça peut être aussi un impact écologique, mais ça ne s'applique pas à tous les types d'œuvres.
Si je peux me permettre, j'ai qu'une expérience muséographique et qui a à voir avec ça. La reproduction numérique, effectivement, ce n'est pas forcément obligé que ce soit du 1 pour 1, c'est-à-dire la même taille ou la même matière. L'expérience que j'ai... que j'ai conçu avec l'Université de Lille, c'était la reproduction d'un vase grec, et que j'ai présenté d'ailleurs au Quai Branly pour ses 10 ans, un objet d'un chercheur. C'est la reproduction d'un vase grec qui était multiplié par 17, ce qui faisait, donc c'était un vase du Musée des Beaux-Arts de Lille, et ce qui fait que les personnages qui étaient représentés étaient de taille humaine. Et ensuite, avec un système de une télécommande et un casque, vous cliquez sur les personnages, sur les objets, etc. Et les personnages racontaient leur histoire, disaient voilà, je suis Athéna, etc. Et qu'est-ce que je fais là, et ça racontait, puisque c'était le jugement de Paris d'un côté et deux scènes de combat de part et d'autre. Il y avait trois passes, c'était un vaste tripode. Et ce qui permettait une médiation. Une médiation numérique extrêmement intéressante, puisque il est toujours exposé, hein, ce vase au Palais des Beaux-Arts, mais les gens ils passent devant, pas forcément. Et là, c'était vraiment assez impressionnant au milieu de la pièce. Et donc, suite à un appel à projet du ministère de la Culture sur le patrimoine vivant. Et voilà, donc je pense qu'il y a des tas de formes numériques, il y en a qui n'aiment pas du tout les écrans, et c'était un des rares projets à ce moment-là qui n'était pas sur écran ou virtuel, c'était de la toile, hein. Donc c'était très physique, et ça avait, ça avait plu, ça a tourné dans plusieurs musées, à Toulouse, à Boulogne, etc. Et donc voilà, je pense que la production numérique, elle peut avoir de multiples formes, et pas forcément avoir la copie exacte d'un artefact.
Oui, en ce qui concerne le... Ça marche ou pas ?
Non ? Là, ça marche. En ce qui concerne le numérique, hein, je prends l'exemple de ce qu'on a fait autour du Mont Saint-Michel. Donc, avec la maquette elle-même, d'une part, on a fait quelque chose où on peut tourner autour de la maquette, avoir les informations, entrer à l'intérieur de la basilique d'une façon virtuelle, mais c'est intéressant pour le public, et on fait une démonstration de ce qu'est le passage du roman au gothique, enfin bon. Et puis, bon, j'avais fait une exposition temporaire autour, mais il y avait surtout, à côté de cette maquette réelle, hein, donc offerte à Louis XIV, il y avait en virtuel la reproduction du Mont-Saint-Michel réel. Donc on pouvait comparer avec des lunettes, je dirais, les deux, puisqu'il y a eu des changements importants sur un plan architectural. Et puis, il y a des choses qu'on pouvait obtenir en prêt, hein, par exemple le Saint-Michel de Frémiet, qui est au sommet de la flèche, et on peut tourner autour. Alors, normalement, il est en train d'essayer de vous montrer, je l'ai sur mon téléphone, mais on n'arrive pas à transférer sur... On n'arrive pas à transférer sur l'écran totalement. Par exemple, dans les très riches heures du duc de Berry, qui sont au musée de Chantilly, bon, il y a une représentation du Mont-Saint-Michel en miniature, une miniature du XVe siècle. Bon, comme vous le savez peut-être, les très riches heures du duc de Berry ne se prêtent pas et ne quittent pas Chantilly. Très bien, on peut avoir une photo. Mais on peut aussi avoir en numérique, et donc là le public voit que le Mont-Saint-Michel était illustré. Et il y a encore plus intéressant, je dirais, les différentes étapes de la construction du Mont-Saint-Michel qu'on peut faire. Donc c'est quelque chose de très complet par rapport à l'histoire du Mont, qui est un lieu frontière, hein, frontière entre les catholiques et les protestants, entre la Normandie et la Bretagne. Enfin, je n'ose pas en parler aujourd'hui alors qu'il y a un transfert de propriété du Mont-Saint-Michel, enfin en termes de gestion. Une frontière entre les Anglais et les Français, puisque ça a été presque un siècle anglais, enfin, ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses à dire autour d'un site comme ça. Et j'ai tendance à penser qu'autour d'un certain nombre d'œuvres d'art, c'est la même chose. Alors j'avais imaginé ça pour les pièces de château-musée, où, comme vous le savez, les conservateurs de musées ont considéré qu'il fallait suivre la théorie de Pierre Verlet et de ne choisir qu'une seule date pour une pièce donnée, hein, en termes d'explication, en termes de ce qu'on appelle restitution. Et j'ai toujours milité pour le fait que une date c'est une chose, mais il y a toute une histoire. Il y a une histoire avant, éventuellement après, etc. Et cette histoire, vous faites soit un panneau pédagogique, soit vous faites quelque chose de virtuel qui est beaucoup plus parlant. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai toujours milité et ça me semble une solution d'avenir. Alors j'ai eu la chance d'avoir le vice-président de Microsoft qui souscrivent complètement à ces idées et à ce projet, et j'espère que ça se développera par la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser là-dessus.
Je n'ai pas vraiment de questions là-dessus, mais plutôt une réaction à ce que vous disiez tout à l'heure sur notre intérêt pour les questions écologiques aujourd'hui dans notre métier et notre tentative de décarboner un peu nos pratiques. On est dans une situation assez paradoxale où on a des limites dans l'amélioration de nos pratiques. On le voit sur les modalités de transport où on est très dépendant du routier et de l'aérien, et où le maritime peut-être apporter des solutions sur quelques cas pratiques, et pareil le fluvial, mais ça reste très contraint, et on a du mal à voir comment on peut l'intégrer dans la quantité de projets qu'on doit mener. Et on a quand même un peu aussi une incitation de l'État à faire beaucoup d'expositions, et partout dans le monde, parce que c'est un impact diplomatique. C'est un outil, on le voit là, aujourd'hui on est réunis dans un programme qui est financé par l'État. Donc voilà, il y a ce paradoxe de l'incitation à faire plein de choses et en même temps à être dans une forme de décroissance de nos métiers. Et voilà, c'est un peu pour dire que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver ensemble à améliorer, quelles sont nos limites et nos possibilités.
Pour compléter ce que dit Marie-Luna, on est effectivement incité par l'État, puisqu'on va diffuser les commissions. c'est géopolitique et diplomatique, et c'est aussi économique. En fait, les musées, on a de moins en moins de ressources via les tutelles, et donc on va avoir des fonds propres. Et quand on prête à l'international sur des très grosses listes, comme on a parlé toutes les deux, là, on fait payer en fait, nos partenaires étrangers. Ce qui nous permet à nous de faire des chouettes projets dans la maison. Enfin, c'est un peu ça le deal aussi. Donc, dans les leviers qu'on a, on essaie quand même de limiter peut-être un peu les actions dans la mesure du possible, et aussi de rallonger les expositions pour que tout ce qu'on met en œuvre ne soit pas mis en œuvre que pour quelques mois. Donc ça, c'est pour le coup quelque chose qui maintenant se répand dans la plupart des musées, et c'est vrai aussi chez nos partenaires à l'international.
Si je puis intervenir, on va préparer une journée ICAR un peu provoque sur les injonctions contradictoires. J'en ai pas parlé ce matin, mais la lettre de mission de l'État, elle est totalement schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire de l'immersif, mais il faut décroître. Il faut faire ça et il faut faire le contraire. Et en fait, il y a un moment, on attendrait une stratégie de l'État, parce qu'on a quand même une stratégie d'accélération, on attendrait un pilotage. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilotage. Et on réfléchit beaucoup à ces questions-là dans le cadre, et on se dit qu'il n'y a pas de pilotage aussi, parce qu'il n'y a pas de recherche au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait dans l'ICAR, c'est qu'on est consulté tout le temps ex ante et jamais en amont. Et en fait, alors on n'est pas du tout que nous avec la notion. Enfin, c'est pareil pour Quanti, par exemple, c'est exactement la même chose. Ils font des rapports, puis les rapports, ils servent à caler la table. Et il y a toutes ces choses-là que je pense que la recherche peut justement mettre en avant en disant ben, regardez, voilà. Je ne parle même pas, alors il y a un autre enjeu, mais ça c'est une autre injonction contradictoire. Sur les 400 millions, il y a 200 millions pour financer l'immersif. On en pense qu'on en veut de l'immersif. Bon. En fait, l'immersif aujourd'hui, c'est ce terrain qui s'en est emparé pour truster tout ce qui est d'extrême droite, enfin, pour faire son projet du RN. Et donc l'État, de manière indirecte, par exemple, a contribué à faire. Et donc c'est pareil, c'est une autre, ça n'a pas été réfléchi. Et alors c'est hyper touchy hein, d'expliquer ça, mais en fait, la stratégie, moi j'étais à des jurys d'arbitrage. Je disais, mais en fait, on arbitre quoi? Et en fait, ben, on ne sait pas. Donc, il y a un vrai souci au niveau des gens qui sont les dirigeants, en fait, pour arriver à dire, ben, il y a un moment, il faut se positionner. Et c'est ça qu'on attend d'une stratégie. C'est-à-dire qu'elles disent, ben, en fait, il faut décroître. Hein, ou pas. Ou alors, on met l'accent, s'il faut faire des choses, ben, s'il faut faire du soft power, eh ben, il faut mettre les moyens. Mais on ne peut pas être tout le temps dans une attitude de ni en permanence, parce qu'en fait, ça nous rend tous schizophrènes. Enfin, c'est exactement ce que tu disais. Voilà, c'était juste ma contribution. Les deux pages de lettre de mission, c'est pas beaucoup de pages, sont bourrées d'injonctions contradictoires.
Sur Internet, le politique se charge par
20 minutes. Exactement, c'est
Internet. Il y a d'autres choses. Je rebondis sur ce que vous dites. Peut-être pour essayer de vous positionner. Au niveau du numérique, je sais que c'est pas votre domaine. Par exemple. Vous avez demain un grand château français qui brûle. Pas lequel ? Il y a trois grands domaines, châteaux, musées nationaux. Lac qui brûle. Vous voulez reconstruire les salles qui ont brûlé. Vous n'aurez aucun moyen pour reconstruire les salles. Et donc, moi j'ai milité pour qu'il y ait ce qu'on appelle des campagnes de photogrammétrie dans les châteaux-musées. Bon. Et c'est pas quelqu'un, n'importe qui m'a poussé à faire ça. Hein, c'est tout simplement le directeur des collections royales anglaises. Tout simplement parce que Windsor avait brûlé et que Windsor brûlant, ils ont été confrontés à la reconstruction. Or, coup de chance extraordinaire, ils avaient fait un reportage photogrammétrique de tout le château avant qu'il ne brûle. Et comme le directeur des châteaux anglais des collections royales savait qu'on n'avait rien en France, il m'a pris comme intermédiaire et j'ai jamais réussi à convaincre qu'il était absolument indispensable de faire ces campagnes. Mais, si vous voulez, par rapport à la modernité de nos démarches, ça me semble évident. Donc, c'est des choses qui sont possibles.
Non, mais vous pouvez essayer. Parce que tout n'est pas forcément. On peut en discuter.
Mais vous pouvez essayer de vous positionner là-dessus.
Oui, bah, d'ailleurs, on fait des formations à la photogrammétrie. On en a fait une l'an dernier avec l'équipe de Comet. On en fait. Après, le numérique, on en pense qu'on en veut, mais je trouve que l'État positionne trop de choses sur le numérique, en fait.
Moi, je... C'est pas des choses.
Oui, mais bon...
Vous disiez qu'il y avait des choses négatives, c'est vrai, je suis pas du tout favorable à la
Il y a aussi des choses quand même très positives, hein, c'est-à-dire que, par exemple, le métier de régisseur n'existait pas quand j'ai commencé ma carrière au Louvre. Hein. Donc, l'État a réussi à créer cette branche-là dans les musées, et c'est absolument formidable. Vous faites un métier absolument génial, qui est excellent pour les collections publiques. Donc, il y a des choses positives aussi.
Et la première injonction, c'est qu'en fait, on attend beaucoup de la culture sans se mettre ses moyens. Et tant que l'État ne positionnera pas plus petite stratégie, plus petit budget pour la recherche, il y a une question à se poser, en fait. Voilà, je ne dis plus rien.
Ah oui, c'est un vrai lieu.
C'est bon. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer d'abord au rôle à Mouez pour faire un mot de clôture. Et à Luc aussi. Luc veut parler ici.
Sur le marin qui a la voile et donc j'ai failli faire venir une compagnie maritime qui fait une ligne entre Saint-Nazaire et Baltimore, peut-être que vous avez entendu parler, et qui fait une liaison entre Saint-Nazaire et Baltimore, que j'ai mis, alors j'ai mis au panneau, c'est le site de la compagnie, hein, donc mais j'ai failli les faire venir. Bon, après j'ai privilégié d'autres choses et puis après j'ai plus le temps. Mais je pense que ils font du maritime à voile, avec une cargaison, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la cargaison par arrière, là, très adaptable pour de toutes sortes de choses. Et avec, en fait, alors apparemment, alors pour le timing, je ne sais pas. Hein, peut-être que ça, mais je pense que ça ne rajoute pas forcément beaucoup de temps. Et puis après, c'est sur une liaison avec les États-Unis, c'est pas très loin. Enfin, je veux dire, c'est pas 40. C'est pas 30 jours, c'est, je ne sais pas combien de jours, enfin, je ne sais pas. Mais ils font un site avec déjà le bateau, c'est déjà, enthousiasmant, vous voyez. Et en plus, comme ils ont des contraintes par rapport à l'utilisation de la voile, ils ont aussi une très haute capacité de prévision du temps pour aller d'un point à un autre, qui rajoute un peu de temps, mais leur argument, alors c'est des marins, passionnés par, c'est ceux qui font le Belém, etc., en Bretagne. En plus, ils sont hyper techniciens, ils ont monté ce projet à partir de rien, c'est qu'à le dire. Et puis, ils ont construit ce bateau qui fonctionne à la voile, avec des prévisions du temps qui fait qu'en fait, la cargaison, à mon avis, doit être dans une situation de sécurité qui est plus grande que les marins, les bateaux habituels. Parce qu'ils habitent les tempêtes, ils travaillent, etc. Donc c'est eux qui racontent ça, etc. Et puis ils font des transports qualitatifs. Alors c'est pas de l'art, mais il y a des entreprises, par exemple de Porto, je ne sais plus quelle, il y a deux ou trois entreprises de produits très qualitatifs qui se servent du transport comme emblème, de façon iconique pour défendre leur activité de transfert entre. Voilà. Donc ça c'est une première remarque. Bon. Vraiment une remarque pratique, je ne sais pas du tout si c'est possible, mais je trouve que c'est tellement enthousiasmant qu'il faut quand même mentionner cette direction. La deuxième chose, ça n'a rien à voir, c'est une remarque d'ordre général. Alors là, c'est vraiment une remarque d'économiste, excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher, je le dis, je ne le fais pas, mais je vais quand même le dire. Si vous avez une politique pour dire je vais pour une politique climatique qui vise une certaine neutralité carbone, puisque j'ai utilisé l'expression ce matin, bon, et que vous dites, par exemple, j'organise des concerts ou des expositions temporaires avec des tickets, et que vous voulez intégrer ce problème que vous trouvez que vous êtes coupable parce que vous avez un empreinte carbone élevé, et que vous faites payer des tickets plus élevés pour compenser ça, ou que vous freinez vous prenez à charge certains coûts pour compenser cette chose-là, ok. Mais il faut faire très attention parce que si les seuls coûts carbone que vous avez, c'est des coûts qui concernent les transporteurs, ben là, il y a un souci. Hein, parce qu'il faut faire l'économie d'instruments pour viser là où ça blesse, et puis, là où ça blesse pour la question, la ressource qui est visée, qui est affectée. sans multiplier les interventions là où ça ne va pas. Vous voyez. Donc là, il faut faire quand même très attention pour dire bon, ben, je m'autolimite pour faire pour pas faire d'exposition temporaire. Ok, ça c'est peut-être possible. Mais l'autolimitation, ben, ça veut dire que dans l'objectif général du bien-être des populations, vous affectez quelque chose. Et peut-être que cette chose-là, il faudrait viser là où ça a un impact réel. Et comme notre société est très spécialisée, eh ben, il faut faire attention que vous n'êtes pas en train de faire le travail de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, c'est simplement ça que... Ouais.